Vous écoutez RTL.
La curiosité, Sidonie Thomas, c'est à vous.
Mais oui, je suis pas sûr que c'était un trotteur, c'est peut-être un cheval de trait, non, le suivant. On va vérifier tout de suite. En tout cas, nous, on sauve des secrets de longévité. Vous en parliez avec Sidonie il y a 5 minutes. Ces zones bleues, en fait, étonnamment, parmi ces zones bleues, il y a 3 îles, Okinawa au Japon et 2 îles de Méditerranée, Icaria en Grèce et puis une petite partie de la Sardaigne, vous verrez. Soyez prêts à noter les bons conseils de notre invité. Il est médecin nutritionniste, c'est à partir de 14h30.
Je vous ai déjà pris un aller, Thomas.
C'est bien, ça me fera du bien ça.
Tout de suite dans la curiosité. Les légendes d'une course mythique, les 24 heures du Mans.
La curiosité est un vilain défaut.
Inscrire son nom au palmarès des 24 heures du Mans, c'est le rêve de tout pilote professionnel ou amateur confirmé.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Depuis 1923, sur les 13 605 km du légendaire ruban.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Moitié circuit, moitié route.
Si votre défaut, c'est la curiosité,
c'est à plus de 200 km/h de moyenne que vont se tresser les lauriers qui viennent couronner cette épreuve mythique.
Alors vous êtes bien sur RTL.
On est bien sur RTL, bonjour à tous, bienvenue sur la route de la curiosité. Comme les 24 heures de Mans, dans notre émission il y a des virages, des pointes de vitesse, des inventions, des frissons et des abandons, aussi parfois, enfin rarement, hein. Et toujours beaucoup de passion. Bonjour Thomas.
Salut Sidonie. Abandon de poste, ça nous est jamais arrivé quand même, hein. On a toujours été là.
Ah nous oui.
Oui. D'accord, ok. En tout cas ici c'est la curiosité, c'est 24 heures sur 24, on est capable, vous le savez, de passer du coq à l'âne, en tout cas, tiens, des secrets d'un archéologue, à la nourriture de nos animaux de compagnie, tout en rencontrant les blondes de l'histoire. Ce sont quelques-uns des thèmes de ces derniers jours sur RTL. Et aujourd'hui, donc, on se passionne pour cette course mythique.
Les 24 heures du Mans, c'est la 86e édition en partenariat avec RTL et elle démarre le 16 juin. C'est un fan, un conteur qui va partager avec nous ses plus belles légendes. Bonjour, Gérard de Cortance.
Bonjour. Bonjour.
Ravi de vous accueillir au micro de la curiosité. Vous êtes écrivain et les 24 heures du Mans, c'est une histoire de famille chez vous. Pour quelle raison ?
Mon grand-oncle Charles de Cortance a gagné les 24 heures du Mans au volant d'une Darlemat Peugeot en 1938. Et il l'a gagné, pourquoi ? Parce que c'était la seule des Peugeot Darlemat qui n'avait pas modifié ses réglages entre les essais et la véritable course.
Et donc ça fait partie de la légende familiale,
oui,
on vous a bercé vous avec ça ?
Oui, on m'a bercé, il a eu deux fils, Christian et André, il était marié avec une dame Ustinx, Fernande, dont on parle assez peu, mais qui était une des premières femmes à courir. Elle a couru les 24 heures du Mans, elle a couru le rallye de Monte Carlo, elle a gagné la coupe des dames, donc on parle souvent de monsieur, mais assez rarement de madame.
Donc c'était un couple de pilotes.
C'était un couple, absolument.
C'est assez génial, couple, déjà, et assez rare, j'imagine. En 1938, ça ressemble à quoi, les 24 heures du Mans, la course auto ? On court sur quel genre de voiture ?
Alors, il y a beaucoup de voitures décapotables. Ah oui. Il y a très peu de techniques sophistiquées. Les pilotes réparent eux-mêmes leur voiture. La piste est relativement mal éclairée. Et surtout, c'est vraiment un événement national. Parce que on court, on va dire, ce sont des voitures qui représentent les pays. Hein, c'est-à-dire que les marques représentent les pays.
Oui, c'est l'Italie contre la France, contre l'Allemagne, etc.
Aujourd'hui, on voit bien que ce sont des marques. On va parler de Toyota, on va parler de Porsche, mais à l'époque, c'est un pilote italien, c'est un pilote allemand, c'est une voiture anglaise, voilà.
Comment les pilotes étaient habillés ? Quel était l'uniforme ? Est-ce que vous avez par exemple des photos de votre grand-oncle Charles de Cortance,
oui,
en 1938 ?
Ce n'est pas que des photos du grand-oncle, mais c'est tous les coureurs de l'époque, et c'est assez étonnant. Ils sont en costume, ils sont cravatés, l'équipe Mercedes, ils sont habillés de blanc impeccable, immaculé des pieds à la tête.
Ils ont des casques sur la tête.
On ne porte pas de casque parce que c'est vulgaire de porter un casque. On porte des écharpes, mais surtout pas de casque. Le casque, c'est à la suite d'un accident dramatique et c'est à partir de 49 que le casque devient obligatoire. Les coureurs à l'époque fument la pipe.
Pas pendant qu'ils prennent le volant quand même.
Mais
pas
si,
au volant.
Justement, par exemple, il y a un pilote qui sachant très bien que le type qui le devance s'énerve facilement, sort sa pipe, il sait très bien qu'il va le regarder dans son rétroviseur, il fait semblant de fumer, l'autre est tellement énervé qu'il se fout dans les décors.
Et donc c'est-à-dire qu'il buvait aussi du whisky, Gérard de Cortance, pendant les courses.
Bah, évidemment, bah, attendez.
Je suis d'une naïveté.
Bah oui, bien sûr.
Et les capotes sur ces voitures, parce que c'est quand même hyper dangereux pour un pilote. dans ces années-là de conduire sur un circuit rapidement sans toit. Est-ce qu'elles sont devenues obligatoires à un moment quand même?
Non, il n'y a plus de capote du tout. Non, il n'y a pas de capote du tout. C'est-à-dire que, par exemple, là, d'Arlemac, il n'y a pas de capote. En 38, une partie de la course s'est déroulée sous des trompes d'eau. Eh ben les types n'avaient pas de ils couraient sous les trompes d'eau.
Ils étaient en costume, bien habillés, mais sous des trompes d'eau. La légende des 24 heures du Mans, c'est le livre que vous publiez aux éditions Albin Michel. Est-ce que c'est une idée française?
Alors au départ c'est une idée américaine. C'est-à-dire qu'on il y a un club américain qui crée une course qui va durer 24 heures, mais en fait cette course qui a lieu sur un petit circuit de entre 2 et 4 km. N'oppose que 3 voitures.
Oui, c'est pas très ambitieux.
Sur une piste cendrée, ouais. Mais l'idée de faire courir des voitures pendant 24 heures, c'est américain.
Et quand est-ce que ça arrive quand en France? On est copilote en fait, c'est ça le problème.
Ça arrive en France en 23, parce qu'en fait, à l'époque, la capitale en fait de la course automobile, c'est Brescia en Italie. Et il y a beaucoup de courses qui ont lieu aux alentours du Mans, dans la Sarthe, et on se dit, mais on va créer une capitale aussi en France, et on décide de créer une course, mais il faut trouver un concept, quelque chose qui soit particulier. Alors, ça va être une course qui va durer 24 heures, ça va être une course qui va être ouverte aux voitures de monsieur tout le monde, et surtout, ça doit être une course qui doit, et ça c'est le cœur même des 24 heures du Mans, qui doit faciliter, comment dire, les innovations.
Justement, les innovations, on va en parler, les 24 heures du Mans, 1923, la création d'une course qui va révolutionner l'automobile. Et vous allez découvrir que vous êtes tous des héritiers de cette mythique course. Restez à l'écoute d'RTL, à tout de suite.
Votre matinée sur RTL. 9h, laissez-vous tenter, Yves Calvi.
Ciné, télé, expo et musique, durant une demi-heure, nous passons en revue toute l'actualité culturelle sur RTL.
Ça peut vous arriver à 9h30 avec Julien Courbet.
Nous rétablissons le dialogue avec celui ou celle qui vous pose problème, et le tout dans la bonne humeur.
11h à la bonne heure avec Stéphane Bern.
Chaque jour, des invités prestigieux qui se dévoilent et s'amusent avec mes chroniqueurs.
Vous êtes bien sur RTL.
RTL, première radio de France.
Aujourd'hui, il s'agit de couvrir environ 5000 km, soit 400 tours sur un circuit de 13 km, ce qui correspond à la traversée des États-Unis en une journée.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Le courage des pilotes est mis à rude épreuve en permanence, en particulier sur les 5 km de la ligne droite des Hunaudières.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, on est bien entre curieux sur RTL.
Et on continue de vous raconter l'histoire des 24 heures du Mans. La course débute le 16 juin. C'est en partenariat avec RTL, et celui qui nous guide dans les coulisses, dans les paddocks, comme on dit, pour découvrir les voitures et l'histoire surtout de cette course, c'est l'écrivain Gérard de Cortance. Alors, vous le disiez tout à l'heure, depuis sa création dans les années 20, en fait, la course évolue, les voitures évoluent. C'est une course à l'innovation et au progrès technique. Tiens, on va commencer par l'éclairage. Vous disiez, en 38, quand votre grand oncle l'emporte, la piste est mal éclairée. Quel progrès on a fait en matière d'éclairage?
Par exemple, pour revenir un petit peu en arrière, en 23, elle n'est pas éclairée du tout.
Mais comment on fait les 24 heures sans...
c'est une des questions qu'on se pose, c'est-à-dire, et ça fait avancer aussi l'éclairage. Alors l'éclairage des voitures et l'éclairage des stands. On se dit, comment est-ce qu'on va éclairer cette course? On se dit, tiens, le revêtement... les premières 24 heures, en fait, c'était en mai, non pas en juin, parce qu'on s'est dit, il ne va pas pleuvoir. Bon, évidemment, ils sont tombés des cordes de la grêle. Ils avaient retrouvé un revêtement, enfin un nouveau, qui était du goudron. Ça s'est mélangé avec la grêle, ça fait une bouillasse absolument infâme. On se demande comment les types ont terminé la route. Ouais. Et donc, effectivement, c'est des innovations en permanence. Les bandes blanches sur les bas-côtés des routes, c'est né au 24 heures du Mans.
Parce que c'était des indicateurs, une lumière de plus, c'est ça, pour les pilotes,
sûr.
En quelque sorte.
Bien sûr.
Et les phares anti-brouillard aussi, qu'on peut utiliser.
Les phares anti-brouillard, le diesel.
C'est inventé là-bas. Ouais.
Mais bien sûr, tout ça on invente ces choses-là.
Le diesel, c'est qu'on fait rouler les premières voitures.
Oui, au 24 heures du Mans. C'est les premières voitures.
Elles marchent bien, ces voitures?
Bien sûr qu'elles marchent bien. Mais bien sûr. Il y a eu les premières voitures électriques, c'est aussi aux 24 heures du Mans. Les voitures hybrides, c'est aux 24 heures du Mans. Et il y a tout ce qu'on appelle les prototypes, où là, on essaie des sous. Il y a quelques années, il y a une voiture qui s'appelait la Green, qui avait failli aux 24 heures du Mans, et qui n'a pas couru, qui était une voiture qui marchait sans essence. Avec en récupérant uniquement l'énergie.
D'accord.
Ça n'a pas marché.
Moi, je veux comprendre l'énergie.
Alors, on récupère. On récupère maintenant l'énergie au freinage.
Oui, d'accord.
Parce que quand on freine, on produit de l'énergie. Donc, on peut récupérer cette énergie.
Vous publiez, Gérard de Cortance, La légende des 24 heures du Mans. C'est aux éditions Albin Michel et l'on y découvre ces innovations justement qui viennent par exemple du règlement de la course. On vient d'évoquer les prototypes. On avait le droit d'utiliser ces inventions, ses propres voitures. Puis il y a aussi un autre point de règlement qui était imposé dans les premières années de la course. Les coureurs devaient se débrouiller tout seuls en cas d'avarie. Que se passe-t-il en 1933 avec une Alfa Romeo? C'est une histoire géniale que vous racontez dans votre livre.
C'est ça. Alors, il y a deux coureurs. Deux grands coureurs de l'époque, Sommer et Nuvorali, italiens. Et en fait, ils sont en tête de la course. Finalement, ils ne sont plus en tête parce qu'il y a une fuite. Et la fuite, on peut la réparer si on a du matériel dans la voiture. Sinon, on ne peut pas la réparer. En fait, ils n'ont pas de matériel. Mais ils ont trouvé quelque chose d'extraordinaire. Ils ont emporté avec eux un pain de savon. Et ils ont mâché du chewing-gum pendant toute la course. Et ils savent que la fuite, ils vont la réparer en malaxant, en espèce de pâte, avec le pain de savon et le chewing-gum. Et ils colmatent la fuite avec ça, et ils gagnent la course.
Aujourd'hui, les pilotes se débrouillent plus tout seuls, quand même. Il y a des stands qui leur viennent en aide.
Maintenant, il y a une technique, il y a l'informatique, enfin, c'est plus du tout ça.
C'est professionnalisé.
C'est un autre type de course. D'ailleurs, beaucoup moins dangereuse que les courses de cette époque-là.
Allez, on va découvrir les héros des 24 heures du Mans. Alors, il y avait votre grand-oncle, on en a parlé en 38, mais il y a des pilotes plus proches de nous, en tout cas dans le temps, et vous connaissez ces noms, Henri Pescarolo, Jackie Hicks, on va vous dévoiler leurs secrets.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
La 86e édition des 24 heures du Mans, c'est en partenariat avec RTL et ça a déjà commencé sur RTL et dans la curiosité avec les histoires passionnantes que nous raconte notre écrivain. C'est ça, regardez, un garçon, une fille, parfait, de la parité.
En même temps, comme on ne roule pas très vite, ils vont nous rattraper.
Surtout avec moi, avec notre invité, l'écrivain Gérard de Cortance. Vous nous le racontiez, c'était passionnant que votre grand-oncle Charles de Cortance a remporté cette course en 1938. Il était très élégant dans son petit costume, il n'y avait pas de qui prenait tous les risques. Il vous a donné cette passion des 24 heures du Mans. Est-ce que, gamin, vous collectionniez des objets des 24 heures de cette course?
Oui, bien sûr. Enfin, tout ce qui est les journaux de l'époque, des porte-clés.
Des drapeaux aussi.
Des drapeaux, alors pas les grands drapeaux. Pas les vrais. D'ailleurs, est-ce que vous savez d'où vient, par exemple, le damier?
Ah non, dites-nous.
Eh ben, en fait, c'est une des premières courses. Un des commissaires de course, en fait, on voit que c'est le dernier tour, donc il doit faire quelque chose pour signifier aux concurrents que c'est le dernier tour. Et le type est en train de jouer aux échecs.
Ah oui.
Et donc il prend son échiquier.
Non.
Et il l'agite comme ça, donc un damier. Et c'est devenu, c'est vrai,
c'est génial.
C'est devenu le drapeau, le drapeau. Alors la course est clôturée avec un damier, elle est ouverte par un drapeau. Bleu, blanc, rouge.
Avec un drapeau
tricolore. Il y a une dizaine de drapeaux qui ont chacune une signification. Vert, vous avancez. Rouge, vous stoppez.
Oui, s'il y a un accident très grave et qu'il faut arrêter les voitures, etc.
Donc, il y avait un drapeau tricolore pour le départ des courses. Et à l'époque de votre grand-oncle, donc en 1938, au début, finalement, les premières années de la course, comment se faisait le départ? On partait d'où? Les voitures étaient alignées ou pas?
Les premiers départs, les voitures sont les unes derrière les autres. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les départs à partir de 1925, donc deux ans après la première 24 heures du Mans. C'est les départs en épi classique ou en arrête de poisson. C'est-à-dire qu'il y a les voitures qui sont alignées.
Et les pilotes qui courent pour monter dans leur voiture, c'est ça, oui.
Et tous les ans, il y a des accidents. Donc, en 69, il y a un type qui s'appelle Jackie Hicks, très jeune pilote. C'est la première fois qu'il court 24 heures du Mans. Et il dit, c'est ridicule ce truc, moi je vais à pied.
Mais pourquoi c'était donc dangereux? Parce qu'il ne prenait même pas le temps de mettre la ceinture de sécurité.
Non, mais d'abord, il y avait des accidents pour ça, et puis parce qu'il y avait des pilotes qui se faisaient attraper par des voitures.
Ouais. Donc qu'est-ce qu'il impose, lui? Ça veut dire quoi? Aller à pied, c'est-à-dire il marche?
Lui, c'est-à-dire que lui, il marche. Donc toutes les voitures démarrent, il les laisse tous partir.
Il part dernier.
Il va tranquillement, il monte dans sa voiture. Et puis il gagne 24 heures du Mans.
Et il gagne quand même.
Ah oui.
Et c'est donc, quoi son secret?
Et à partir de là, on s'est dit oui, on arrête. Et son geste a fait que les départs ont été donnés différemment maintenant en fonction des places obtenues aux essais.
On va parler des femmes, mais un mot quand même d'un autre grand nom, Henri Pescarolo. C'est peut-être le plus emblématique de cette course.
Ah oui, totalement. Pescarolo, d'abord, il a participé à 33 24 heures du Mans, 4 victoires. Et pour moi, la plus belle course, c'est pas une victoire, c'est une presse à victoire. C'est en 68. En fait, son directeur de course, qui est Lagardère, il court sur une Simca, couleur gitane, vous savez, bon, avec une gitane. Soit maintenant, il y a plus une gitane sur le capot, avec une cigarette, et lui dit bon, tu arrêtes parce que les essuie-glaces sont cassés et le moteur des essuie-glaces est inaccessible. Et Pescarolo dit, ça va pas, non, mais moi, j'arrête pas la course. Il remonte dans la voiture, il continue. Et en fait, il remonte, et il a pratiquement course gagnée, et là, il crève.
Alors et qu'il avait réussi à gagner en y voyant mais très mal.
Tout le monde applaudissait, c'était une des plus belles courses de Pescarolo.
Alors, est-ce qu'on a applaudi des femmes sur la ligne de départ des 24 heures du Mans? Vous allez répondre à cette question dans un instant, Gérard de Cortance. Et puis, dans la seconde partie de notre émission, on va vous révéler tous les secrets de la longévité humaine. On sera là pour toujours. À tout de suite sur RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Des légendes des 24 heures du Mans, c'est ce qu'on vous raconte dans la curiosité sur RTL, alors que la compétition va commencer dans quelques jours. Ça sera le 16 juin et ça sera d'ailleurs en direct sur RTL le soir. Je vous en dis un peu plus dans quelques instants. Nous sommes avec l'écrivain Gérard de Cortance. On évoquait ses héros, Jacques X et tant d'autres. Et on n'a pas parlé de femmes encore.
Oui, c'est vrai.
Et il y avait des femmes. Et il y a des femmes toujours au départ de cette course.
Absolument. Les premières, c'est Odette Sicot, dans les années 30. Il y a 39 femmes, en fait, qui ont couru au 24 heures du Mans. Odette Sicot, sa meilleure place, c'est la quatrième. C'est quand même pas mal, quatrième place. Et je vous recommande cette année une Danoise, elle s'appelle Christina Nelson, et qui risque quand même d'aller assez loin. Elle court sur une Porsche 911.
Et puis on parlait de Jackie X, sa fille Vanina X a aussi plusieurs fois participé à la course des 24 heures du Mans et a terminé je crois une fois septième. Pour bien prendre conscience de, on parlait de technologie, d'évolution, d'innovation, les premières 24 heures du Mans, ça se court à quelle vitesse moyenne?
Alors la vitesse moyenne c'est 92 km/h, j'arrondis. Aujourd'hui c'est 225 km/h, donc 14 km, le record du tour. Le record du tour qui était fait aux essais, c'est 250 km/h sur une Toyota, c'est-à-dire que les 14 km, vous les faites en 3 minutes 15 secondes.
Et ça, c'est la moyenne. Et la vitesse la plus rapide jamais atteinte par une voiture aux 24 heures du Mans?
Alors, qui ne sera plus jamais battue, parce que c'est dans la grande ligne droite des Hunaudières.
Qui a été, il y a une chicane maintenant.
C'est 405 km/h.
405 km/h, ce qui était une folie. Parce que
c'est une folie. Alors, il s'appelait Dorchy, le pilote. Et quand on lui a annoncé qu'il avait... Quand il a arrêté la course, les caméras étaient là, les journalistes, tout le monde l'entourait. Le type ne comprenait pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Vous avez roulé à 405 km/h, il s'est aperçu de rien.
Ah, incroyable.
Et les voitures avaient tendance à décoller, donc c'était un peu dingue.
Et d'autres histoires, d'autres légendes comme ça, passionnantes à lire dans votre livre, Gérard de Cortance, aux éditions Albin Michel. La légende des 24 heures du Mans, et puis rendez-vous pour cette nuit spécial sur RTL, samedi 16 juin, avec Éric Jean-Jean et Frédéric Veil qui seront en direct du circuit de 23h à 5h. C'est pas moi qui piloterai ce soir-là. Et ils commenteront la course avec talent.
Vous écoutez RTL.